CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons découvrir le rôle de la prière dans la vie du croyant. Et nous avons une invitée avec nous, Marilène Rofidal. Bonjour Marilène, ça va ?
Bonjour, bonjour à tous, ça va
bonjour
très bien.
Bonjour Marilène. Tu
es venue amener de la couleur sur notre plateau.
Yes.
Marilène, donc tu es une artiste, tu es vraiment dans le domaine de la musique à temps plein depuis maintenant plusieurs années. Tu as plusieurs albums à ton actif et tu viens aujourd'hui, donc avec Nadine en fin d'émission, présenter ton dernier album.
C'est oui, dans Nadine? La rubrique Culture et Médias, on va présenter son album, son single et parler aussi de son ministère.
Waouh.
Amen.
Tout ça, tout ça. Et Anne, tu vas oui répondre à une question dans la rubrique Pasteur, j'ai une question.
Oui, il y a une auditrice qui nous a demandé faut-il faire la prière Notre Père à chaque fois que nous prions? Mm-hmm. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui se la posent, donc on va essayer d'apporter une réponse sensée.
Ben, je l'espère, Anne, je l'espère. C'est une bonne question, en tout cas, c'est intéressant.
C'est très intéressant.
Sois inspirée, Anne, tu vas être conduite.
Ouais, ouais.
Donc aujourd'hui, on va voir le rôle de la prière, vraiment. Alors on sait, hein, la plupart d'entre nous, on prie normalement, je l'espère en tout cas. Mais est-ce qu'on connaît vraiment toutes les facettes du rôle de la prière? Et on va voir vraiment que c'est un privilège extraordinaire extraordinaire qu'on a. Et Omer, si t'es prêt, t'es prêt ?
Toujours prêt.
Toujours prêt. Et donc, on commence avec toi dans la pensée du jour.
Bonjour. La pensée du jour d'aujourd'hui, c'est prier pour communiquer avec Dieu. Le but de cette pensée, c'est d'encourager chaque croyant à prier, pas pour répéter des mots, mais pour parler avec Dieu. Parce que la prière, c'est un mode de communication que nous avons avec Dieu, notre Père, le Roi des Rois, le Créateur de l'univers. Matthieu 6,6 nous dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » La première chose que j'aimerais dire, c'est que Dieu s'attend à ce qu'on prie. Il n'a pas dit « Mais si tu pries », il dit « Mais quand tu pries ». Donc c'est très important de comprendre que Dieu s'attend à ce que on puisse prier, et lorsque nous sommes chrétiens nés de nouveau, Dieu s'attend à ce que nous puissions prier Dieu en tant que notre Père, parce qu'il y a une relation entre nous et lui. Il n'est pas un Dieu lointain, perdu dans une quelconque galaxie, mais il est le Dieu proche de ceux qui l'invoquent, et Dieu s'attend à ce que nous puissions prier. Mais ce que j'aime, c'est la fin du verset. Il dit que quand nous prions, Dieu entend et Dieu répond. Il dit « Ton Père qui est dans le lieu secret », parce que finalement, la prière, c'est une conversation personnelle entre le Père et son enfant que vous êtes. Il dit « Ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra ». Alors, il est important pour nous de comprendre que, essentiellement, la prière poursuit quatre buts. Le premier but de la prière, ce n'est pas la répétition de formules préétablies, mais c'est un cœur sincère qui s'épanche devant Dieu, qui veut parler à son Père céleste. Voilà pourquoi Jésus dit que dans Matthieu 6,7, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles. En fait, ne dites pas des choses dans lesquelles vous ne croyez pas finalement. Parce que ce n'est pas à force de répéter des paroles que cela fonctionne, mais c'est par la foi que votre Père Céleste vous écoute que cela fonctionne. Mmh. Le but numéro 2, c'est que nous prions pour apprendre à mieux connaître Dieu. Mmh. Un enfant connaît mieux son parent lorsqu'il discute avec, lorsqu'il est en conversation. La prière développe l'intimité entre celui qui prie et son Père Céleste, entre l'enfant de Dieu et le Père Céleste. Psaume 25, le verset 4 nous dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Mmh. » Il y a une richesse dans l'intimité de la prière régulière dans le lieu secret avec Dieu, c'est que nous apprenons à connaître la voix de Dieu, nous apprenons à connaître sa voix audible et nous apprenons à connaître la voix, les voix de Dieu. Donc il y a une différence entre la voix de Dieu, c'est que Dieu qui me parle, les voix de Dieu, les habitudes de Dieu, comment Dieu fait certaines choses, comment Dieu pense. C'est là que nous développons dans le lieu secret. Numéro 3, lorsque nous prions, eh bien, nous apprenons à dépendre de Dieu finalement. La prière, c'est le plus haut niveau de foi, c'est que nous faisons connaître à Dieu nos besoins, car Dieu aime exaucer la prière. Mmh. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu aime exaucer la prière. Donc, vous devez prier. Voilà. Hein, Philippiens 4, 6, nous connaissons. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Quatrièmement, nous prions pour les besoins des autres. Mm-hmm. La prière n'est pas seulement un acte égoïste, mais nous prions aussi pour faire connaître à Dieu les besoins des autres. Galates 6:2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. » Donc la prière n'est pas seulement un acte personnel, c'est pas un acte égoïste, mais nous prions aussi parce que en Christ nous aimons nos frères et sœurs et nous portons leur fardeau.
Mmh. Amen. Merci beaucoup, Emma, pour cette pensée très complète. En 3 minutes, t'en as dit des choses. Un peu rageant, quand même. La concision est vraiment la force d'Omer. Merci. Vraiment, c'était très, très intéressant. Et ça nous rappelle des choses primordiales dans la vie chrétienne, cette vie de prière qu'on doit avoir, ce privilège d'avoir, en fait, cette relation. La plupart d'entre nous, on n'a jamais vu Jésus face à face. On le connaît, on connaît son cœur, on connaît sa parole, on arrive à déterminer comment il est, comment il se comporte, mais en réalité, on ne l'a jamais vu. On n'a jamais eu de conversation face à face avec lui directement, comme je peux l'avoir avec toi, Nadine, là. La prière nous permet d'avoir cette conversation. La prière nous permet d'avoir cet échange, cette communion, ce cœur à cœur, en fait, avec Dieu. Et c'est tellement dommage de s'en priver, en fait, parce qu'on en a besoin dans notre vie. Entre le moment où on est de nouveau et le moment où on va se retrouver au ciel dans sa glorieuse présence, il y a pas mal d'années qui vont s'écouler normalement.
Normalement.
Et ce soir, tu seras avec
moi. Ah, si c'est son plan, ouais, dans
pas
sa
toi.
Présence,
toi.
Je serai OK. Faudra me remplacer sur mon jeu chez vous, c'est juste ça, sans effet.
Sans effet, nous renversons.
Nadine, elle ne veut pas prendre ma place. Mais on a cette communion qui est possible avec le Seigneur et c'est extraordinaire. On va regarder notre verset du jour qui est dans Daniel 9 au verset 18 et on va voir un peu plus sur la prière. Certes, ce n'est pas à cause de nos actions justes que nous te prions et t'adressons nos supplications, mais à cause de ton immense compassion. On ne mérite pas le salut et on ne mérite pas de pouvoir dialoguer avec Dieu. On n'a pas à le mériter. C'est simplement par grâce. Tout est par grâce de toute manière. Et pouvoir nous adresser au Dieu puissant, créateur de l'univers, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, c'est ce Dieu extraordinaire, le seul et unique Dieu. On peut s'adresser à lui directement. Imaginez, moi, si je veux aller parler au président des États-Unis et je vais aller faire toc-toc à la Maison Blanche, déjà, je pense qu'on va m'arrêter. On ne me laissera pas lui parler. Parce que qui je suis, moi, pour aller parler au président?
Même au téléphone.
Hein. Même au téléphone. Même mes courriers n'arriveront jamais.
Le standard de la Maison Blanche. Oh, madame Yveline Debout, mais bien sûr, je vous passe tout de suite le président.
J'ai quelques relations. Tout ça pour dire qu'on a ce privilège, cet accès, c'est merveilleux, il faut le réaliser. Et Omer, la prière est la chose la plus importante dans la vie du croyant.
Oui, en fait, apporter un tel sujet, aussi peut-être simplement que je l'ai apporté, souvent des chrétiens d'expérience vont trouver ça, ah ben c'est la base. Oui. Ben, en fait, dans tous les sports, la base fait partie de la force de l'athlète. Donc, dans la boxe, il y a des mouvements de base qu'il faut répéter à tous les entraînements. Au foot, il y a des mouvements de base qu'il faut répéter à tous les entraînements. Et souvent, nous dévions de la vie de prière parce que nous oublions de revenir à nos bases. Mm-hmm. Dans tous les sports, ils reviennent toujours au mouvement de base.
C'est vrai.
Le mouvement de base permet que la prière dans la vie du chrétien garde son essence. Mm-hmm. L'essence, c'est pas la compétition avec mon frère qui peut dire, je ne sais pas moi, le plus de mots en langue ou bien le plus de mots en grec ou en hébreu, citer le Deutéronome. Mais la prière, c'est une conversation pure. Mm-hmm. En fait, c'est que la prière permet de faire 3 choses essentiellement. Elle développe en nous le caractère de Christ. Mm-hmm. Le but de la prière, dans la perspective de Dieu, c'est pas tellement de nous exaucer, c'est d'imprimer en nous son caractère, sa nature. Donc, si quelqu'un dit qu'il prie beaucoup et que son caractère n'est pas changé, c'est qu'il n'a pas encore commencé à prier. Parce que la prière, c'est la rencontre entre la nature de Dieu et la nature de l'homme. Et Dieu, parfois, tarde à répondre parce qu'il veut imprégner de sa nature pour que la prière nous transforme. La prière, deuxièmement, eh bien, elle va développer dans le croyant l'endurance. Dieu est parfois comme cette fiancée qui est dure à dire oui. Donc parfois, il se fait désirer. Mmh. Et dans la prière, on apprend d'attendre Dieu. Il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Dans la prière, on apprend à attendre Dieu dans l'écoute. On apprend à attendre Dieu dans la patience. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Et cette prière, en fait, il y a une activité même dans le silence de la prière. Et souvent, dans le milieu pentecôtiste, ce qui se passe, c'est qu'on est on a beaucoup de vocables. Mais la véritable prière, le plus haut niveau de prière, c'est le silence. L'Éternel est dans son Saint-Temple. Que toute la terre fasse silence. Mmh. C'est les battements de mon cœur qui se joignent aux battements de son cœur et qui deviennent une prière. C'est là qu'on comprend quand le psalmiste dit que ma langue devienne comme la plume d'un habile écrivain. Mmh. Et c'est juste des soupirs dans sa présence. Mmh. Parce que là, je suis dans le Saint des Saints. Mmh. Et quand vous regardez le tabernacle, vous allez voir dans tout le parcours, il y a beaucoup de bruit. Au plus on va dans la profondeur, au plus il y a le silence.
Mmh. Wow.
Attrape.
Quatrièmement,
la prière crée en nous, en fait, la soif de Dieu.
Amen.
Parce que la dernière fois que vous priez, vous atteignez un tel niveau que la prochaine fois, vous dites, je veux plus, je veux aller plus loin. Mm. Et c'est comme, en fait, cette vision du fleuve dans Ézéchiel, où nous devons aller de profondeur en profondeur. Mm-hmm. Donc, c'est pour cela que je peux décrire la prière simplement comme étant le moyen le plus simple de se laisser juste noyer dans le fleuve de Dieu, jusqu'à ce que lui prenne contrôle. En fait, quand on atteint ce degré-là, ce n'est plus nous qui prions, mais c'est le Saint-Esprit en nous qui commence à articuler la prière. Et soudainement, dans la prière, vous allez prendre un sujet qui vient à contre-courant de ce que vous étiez en train de prier avant. Mais c'est quelque chose qui s'imprime dans votre cœur, c'est que Dieu a pris le contrôle. Et quand Dieu prend le contrôle de la prière, c'est qu'il s'occupe de tous les autres besoins pour lesquels on n'a pas prié.
Mm-hmm.
La prière, en fait, c'est pas juste une liste d'épicerie qu'on apporte à Dieu.
Amen.
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 Anne, tu voulais
dire je milite contre les listes d'épicerie. Mais c'est vrai, mais je l'ai souvent dit, quand on a cette déformation, alors je sais pas à quoi c'est dû, de la prière en forme de liste d'épicerie. Mais je pense que ça, c'est beaucoup plus profond. Ça vient aussi d'une mauvaise conception de notre relation avec Dieu, ben comme l'a partagé Omer.
Mm-hmm.
Quand on comprend que c'est vraiment un cœur à cœur avec Dieu, on vient pas avec sa liste de requêtes, comme on viendrait, je sais pas, au guichet de la sécurité sociale.
Mm-hmm.
On vient pas au guichet de Dieu. On vient dans un cœur à cœur avec notre Sauveur.
Mm-hmm.
Et la principale fonction de la prière, c'est d'entretenir ce cœur à cœur.
Mm-hmm.
C'est d'apprendre à connaître notre Maître. D'écouter sa voix, pas de lui lancer toute une liste de choses qu'on aimerait avoir ou qu'on trouve préférables dans notre vie. Donc je pense qu'on doit arriver à un degré de maturité dans la prière, à laisser de côté nos listes d'épicerie et d'abord chercher la face de Dieu juste pour lui.
Mmh.
Et puis dans le cours de notre communion avec lui, ben, nos besoins vont venir. Hein, comme Omer l'a lu, on apporte nos besoins à l'Éternel. Mais ce n'est pas la première fonction de la prière. La première fonction de la prière, c'est vraiment le cœur à cœur. D'apprendre à connaître notre Dieu, lui laisser aussi travailler notre cœur, puisque c'est dans ces moments-là qu'il va façonner en nous le croyant que nous sommes.
C'est vrai. J'ai une citation de John Bunyan, je ne sais pas, je l'ai bien prononcé.
Je pense.
Qui est donc l'auteur du livre Le Voyage du Pèlerin, qui a dit « Priez souvent, car la prière est un bouclier pour l'âme, un sacrifice pour Dieu et un supplice pour Satan. »
Excellent.
Si ce n'est que la dernière partie qui vous motive à prier, c'est déjà très bien, un supplice pour Satan. Mais
c'est excellent.
Je trouve que c'est une très belle illustration de ce qu'est la prière, parce que c'est vrai que dans la prière, on se protège soi-même, en fait, mais aussi on s'offre comme un sacrifice vivant à Dieu. À chaque fois, c'est comme une reconsécration, en fait. On se met à nu devant Dieu, on lui redonne notre cœur, on se connecte à lui. Et quand on rentre dans la partie plus combative, et ben là, c'est ça, c'est qu'on est en train d'attaquer dans le camp de l'ennemi. Et les facettes de la prière sont réunies dans cette citation. C'est pas une parole biblique, c'est une citation, mais je trouve qu'il a bien résumé.
Oui, il a très bien résumé. Et quand Omer disait que les bases de la prière, en fait, c'est un peu comme le sport, c'est des choses que les bases dans le sport, ça veut dire que des fois, je crois qu'aujourd'hui, on se complique beaucoup la vie en essayant de faire beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a des mystères et c'est vrai qu'il y a des révélations qui nous viennent après, année après année. Mais je crois qu'il faut vraiment comprendre la prière d'abord pour qu'est-ce qu'elle est. C'est pas une manipulation pour que Dieu puisse faire quoi que ce soit. C'est d'abord ce cœur à cœur, comme Anne vient de dire. Et quand je rentre dans la prière avec cet état d'esprit, cette mentalité, cette disposition, je suis prêt à recevoir de la part de Dieu. Je suis prêt à laisser le Seigneur me transformer, me remplir de son esprit pour qu'en fait, ma prière, c'est que le règne de Dieu puisse venir, en fait. C'est ça, la vraie prière. C'est d'être le rôle de la prière dans la vie d'un croyant. C'est d'être cet intercesseur qui va être devant Dieu pour que le règne de Dieu puisse s'établir, pour que le Seigneur puisse faire des choses dans la vie des personnes autour de nous. Et quand nous cherchons son royaume, quand nous faisons de lui ses délices, ben après, nos besoins, ils vont être rencontrés. Mais des fois, on rentre dans la prière pour nous-mêmes, tu vois, et on sort rapidement. C'est comme un enfant que tu dis, ton petit enfant de 5 ans qui va prendre sa douche, et il est sorti, le temps que tu te retournes, il a déjà terminé. Tu dis, t'es sûr, t'as fini? Oui, j'ai fini, maman.
Ouais, c'est clair. Moi, je me fais pas avoir.
on y retourne. Pourquoi? Parce que vraiment, des fois, il y a des gens qui vont comme ça, vite, vite, vite. Mais non, plus qu'on reste et plus que Dieu nous transforme et plus que nous-mêmes, même dans notre vie de prière, nous grandissons, notre façon de voir les choses change parce qu'on n'est plus là en train de vouloir juste satisfaire nos besoins, mais au contraire, on veut que le règne de Dieu vienne. On veut être cet intermédiaire ou cet agent du Seigneur sur la terre, en fait.
Amen, amen.
Peut-être aussi le fait de réaliser qu'on n'est rien sans Dieu. On n'est rien sans Dieu et ça nous pousse aussi à la prière. Parce que de nous-mêmes, de nos propres forces, on ne peut pas faire grand-chose. Mais quand on se rend compte qu'à notre disposition, on a le Dieu de toute la terre, le Dieu de la création, le Dieu de l'impossible, je veux dire, ça devrait nous pousser encore plus à prier. Et puis de réaliser aussi, moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est que c'est mon papa. Par exemple, moi, j'ai plus mes parents parce que je suis la plus jeune d'une famille de 5 enfants. Et quand je prie, je réalise que c'est mon papa.
Oui.
C'est à la fois mon créateur, mais mon papa. Et il connaît tout, quoi.
Amen.
Et ça, c'est...
Amen.
C'est fort aussi. C'est...
Amen.
Amen.
Omer, la prière est quelque chose qui doit être enseigné. Est-ce que tu peux nous expliquer ça?
Si on veut parler de la prière dans cette dimension, la prière peut être un couteau à double tranchant. Et les disciples, quand ils ont vu Jésus prier, les disciples ont dit à Jésus dans Luc chapitre 11, le verset 1, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et remarquez que les disciples n'ont jamais demandé à Jésus de leur apprendre à faire des miracles, à chasser des démons. La seule chose qu'ils ont demandé, c'est « Enseigne-nous à prier. » Pourquoi ils ont demandé ça? Parce qu'ils avaient un modèle de quelqu'un qui prie. Oui. Et ça, je veux insister. Celui qui prie a la crédibilité d'enseigner à prier. Il y a beaucoup de gens qui veulent enseigner à prier, mais qui ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. Voilà. Donc, il y a des choses que c'est vraiment dans la prière que vraiment l'expérience d'entrer dans l'éparvis, les lieux secrets. Comment enseigner à quelqu'un comment prier pendant 15 heures? Quand celui qui enseigne a du mal à prier pendant 5 minutes. Donc, voilà. Donc, la prière doit être enseignée. Mais Jésus était un maître dans l'art de la prière.
Amen.
Et parce qu'il avait maîtrisé l'art de la prière, il avait la crédibilité de l'enseigner aux disciples. Parce que lorsque vous enseignez la prière aux gens, ben, l'esprit doit attester à ces gens que ce que vous dites, vous l'avez expérimenté.
Oui.
Sinon, tout ce que vous dites, c'est juste des mots, en fait, qui ne motivent personne. C'est parce que Jésus priait. Et lorsqu'on n'enseigne pas la prière, la conséquence, c'est que ben, les gens sont frustrés. Parce que c'est essai-erreur. Essai-erreur. Puis à un moment donné, ben, Satan leur dit ben, « la prière ne marche pas ». Alors quelqu'un qui a déjà parcouru peut leur montrer comment éviter des erreurs et vraiment maximiser leur temps dans la prière. Une fois, à l'église, j'ai enseigné aux gens comment rester 2 heures à genoux dans la prière. Et j'étais à genoux, puis je leur montrais les différentes manières de se positionner. Mais c'est en le faisant dans la prière que j'ai commencé à déduire que si je me mets comme ça, j'ai moins mal au dos, etc. Voilà. Mais c'est parce que je l'ai expérimenté. La plupart des gens ont du mal à rester à genoux 5 minutes. Alors, comment rester à genoux sur du marbre? Voilà, du tapis. Vous voyez, ça, c'est l'expérience. Voilà. Alors, aussi, lorsqu'on n'enseigne pas la prière, ben, les gens ne sont pas exaucés, donc ils pensent que la prière, c'est pas important. Il laisse tomber. Lorsqu'on n'enseigne pas la prière, ben, il y a désertion des lieux de prière. Voilà, c'est ce qu'on voit dans la plupart des églises, c'est que la prière n'est pas populaire.
C'est vrai.
Parce qu'on a cette impression que Dieu ne répond pas. Or, le désir de Dieu, c'est d'exaucer et la prière du croyant et les prières qu'il veut que le croyant puisse faire. Parce que lorsque nous venons prier, il y a la prière que moi je préparais et il y a la prière que Dieu veut que je puisse faire. Donc, les deux se rencontrent. Et donc, Dieu veut exaucer la prière. Et aussi, c'est que lorsque la prière n'est pas enseignée, ben, on connaît plus de défaites au lieu de victoires. Et finalement, parfois, lorsque la prière n'est pas bien enseignée, on a des représailles de la part de l'ennemi. Mmh. Et donc, c'est très important qu'on enseigne la prière de la bonne manière, et pas seulement des cours de prière, mais qu'on emmène le croyant dans la prière. Celui qui enseigne la prière doit les emmener dans la prière. Vous voyez, au jardin de Gethsémané, Jésus a entraîné les disciples avec lui. Mmh. Et puis, il a prié. Et puis, comme maître, comme enseignant, il s'est dit, « Oh, vous n'avez pas pu prier pendant une heure. Ça fait 3 ans que je suis avec vous. Vous êtes supposé prier plus d'une heure. » Donc, il y a des niveaux. Quelqu'un a dit, « Non, mais on ne peut pas chronométrer le temps de prière. » Mais moi, j'ai dit, « Mais comment est-ce que vous allez faire des progrès si vous ne savez pas ? Regardez l'heure quand vous êtes rentré, regardez l'heure quand vous sortez. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Mais à un moment donné, je dois savoir aussi que j'ai fait du progrès. Ce n'est pas une compétition, mais je dois savoir que je fais du progrès. Et celui qui enseigne la prière mais doit prendre, surtout au niveau des nouveaux convertis, les entraîner dans la prière. Prier avec eux simplement pour qu'ils apprennent à prier de la bonne manière.
Je pense que vraiment, on a besoin de justement avoir un dialogue avec Dieu dans la prière pour que justement ça puisse. Tu parles des lieux, des cultes, des temps de prière qui sont désertés, etc. Mais parce que souvent, en fait, c'est juste, on est en train de bombarder dans la prière. Et il y a des temps hein, où il faut comprendre que la prière, c'est pas quelque chose de standardisé en disant bon ben voilà, on fait comme ça et puis ça se passe toujours de cette façon-là. Il y a une inspiration qui vient de Dieu et il y a des moments dans la prière où peut-être on rentre dans un combat et là on va bombarder. Mais il y a des moments juste où on est dans sa présence. Et tu parlais du silence, mais ce moment de silence est agréable aussi. Et en fait, c'est dans ces moments de silence qu'on reçoit. Même si on n'entend pas, même si c'est pas des paroles, mais il y a quelque chose, la présence de Dieu qui s'établit, qui coule sur nous, une paix intense qui s'installe, un bien-être qui se dépose et qui est suffisant pour être maintenu tout au long de ma journée parce que j'ai passé ce temps dans la présence de Dieu le matin. Et je pense que vraiment, on a besoin de retrouver des temps de prières qui sont différents, qui ont vraiment une importance avec Dieu. C'est pas moi toute seule, je m'enferme et ok, j'ai prié, c'est bon, j'ai prié, je peux partir. Mais c'est moi et Dieu. On est deux quand on prie, en fait. On n'est pas tout seul. Et je pense qu'on aurait beaucoup plus de facilité à prier si justement on a conscience qu'on n'est pas tout seul dans ces temps de prière. Et Omer, tu as cité ce passage où les disciples ont demandé à Jésus « Enseigne-nous à prier ». Et on sait que Jésus a dit « Quand vous priez », et puis il a donné la prière du Notre Père qu'on connaît bien, « Anne, je me tourne vers toi ». Parce que Jésus donc a fait cette explication-là, il a enseigné à ses disciples. Et Annick nous pose cette question qu'on pourrait tous se poser. Non, c'est Noël.
C'est Annick,
oui, c'est ça. Ok, je m'affiche, j'ai deux noms. Donc, c'est Annick de Belgique qui demande « Faut-il faire la prière du Notre Père à chaque fois que nous prions ?»
Oui, je voudrais le relire quand même en entier. Parce que c'est vraiment les instructions de Jésus spécifiques.
C'est pas rien.
Bon, ce passage-là, on le trouve dans Matthieu 6 et on le trouve aussi dans Luc 11. Et dans Luc 11, on voit que c'est un disciple qui lui a posé la question et que donc cette réponse qu'on a un peu plus complète dans Matthieu s'adresse à un disciple qui veut savoir comment prier. Et voilà ce que dit Jésus. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Et c'est là qu'on a ce fameux passage qui a été gardé dans beaucoup de traditions du christianisme, qui est qu'on a appelé le Notre Père parce qu'il commence par « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Alors, je suis sûre que tous ceux qui ont écouté, ça leur rappelle des bons souvenirs. Alors c'est très clair, les instructions de Jésus sont on ne peut plus claires et on pourrait s'arrêter là. Et comme beaucoup l'ont fait d'ailleurs, je dis, il y a des millions de personnes qui récitent chaque jour en boucle cette prière dans toutes les langues. Et c'est vrai que quand le disciple a posé la question, Jésus a donné ce modèle de prière aux chrétiens. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut répéter mot pour mot exactement ce que Jésus a dit ? Alors déjà, je voudrais faire une petite espièglerie. C'est de souligner que dans les deux passages qui en parlent, on n'a pas la réponse identique. C'est-à-dire que Luc 11 et Matthieu 6 ne sont pas tout à fait identiques. Donc si on veut répéter du mot à mot, on répète quel passage exactement? Mais ça, bon, c'est une petite boutade. Mais est-ce que on voit ailleurs dans le Nouveau Testament d'autres exemples de prières? Parce que ça peut être un bon indicatif. Surtout dans les Actes des Apôtres, puisqu'on voit donc ces gens qui ont eu quasiment de première main ou de deuxième main au maximum l'enseignement de Jésus, comment ils ont appliqué cet enseignement de Jésus. Et dans Actes 4, 24, il est dit, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, donc les disciples sont en train de prier, et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, etc. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et un peu plus loin, au verset 29, il dit, ils disent, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, Amen. Par le nom de ton serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Donc on voit bien que déjà les disciples qui avaient été enseignés à dire entre guillemets le Notre Père, ce passage de Matthieu, là ils priaient librement.
C'est vrai.
Ils étaient déjà... Le contenu correspond au contenu que Jésus enseignait, mais la formulation n'est pas du tout la même. Et on voit que la prière a été efficace, donc que Dieu a entendu leur prière et qu'il a répondu, puisque les murs ont tremblé. Et puis, il n'y a eu aucune répétition mot à mot.
Non.
Alors, la vraie question, c'est qu'est-ce que veut dire vraiment Jésus quand il dit « voici comment vous devez prier ». Alors, quand on récite une prière plusieurs fois par jour, ça ne veut pas dire qu'on fait exactement ce que Jésus a enseigné. Parce que réciter, c'est pas prier. Quand on récite par cœur quelque chose, c'est pas prier. Prier, c'est parler. Hein, Omer l'a dit tout à l'heure dans la pensée du jour. Prier, c'est parler à Dieu. C'est avoir ce contact verbal avec avec la divinité. Et quand on récite le Notre Père, eh ben on n'est pas techniquement en train de parler au Seigneur. On récite quelque chose d'appris par cœur. Par contre, est-ce que je suis en train de dire qu'il faut absolument pas dire le Notre Père? Pas du tout. Si chaque mot qu'on prononce dans le Notre Père, c'est le reflet de notre pensée, de notre désir, ben, il est parfaitement correct. Et moi, je le dis souvent, le Notre Père.
Amen.
Parce que je trouve que c'est une prière qui est merveilleuse et qui dit bien tout ce que le chrétien doit avoir dans son cœur par rapport à Dieu, et dans son rapport avec Dieu. Donc, si on pèse les mots et que quand on dit le Notre Père, on comprend bien ce qu'on dit et qu'on le vit.
Et parce que bien ça qu'on veut nos offenses, comme nous pardonnons
à ceux qui nous ont offensés.
Il faut le mettre en pratique.
Et donc, si vous êtes vraiment sincère dans ce que vous dites, eh bien, bien sûr que Notre Père est une bonne prière. Alors, c'est un modèle de prière. Et ce qui compte, c'est pas la formulation exacte, mais c'est le contenu. Et puis, j'ai une suggestion à vous faire, parce que certains l'ont fait déjà et c'est très intéressant. C'est de décortiquer le Notre Père en voyant toutes les composantes et voir comment le Seigneur nous invite à entrer en rapport verbal avec lui. Et je vous suggère de le faire si vous ne l'avez jamais fait.
Merci Anne. Et pour les sceptiques, on a aussi un extrait de la prière de Jésus à Gethsémané, où là c'est Jésus lui-même qui parle à Dieu, au cas où il y aurait encore des sceptiques. Mais merci beaucoup pour cette très bonne réponse. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurjeunequestion@emcitv.com. Nous continuons maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Nadine, je me tourne vers toi, je te passe la main.
Oui, et je la prends. Pour les 10 prochaines minutes, demain tu reviens.
Oui, Nadine, demain je serai là, n'aie pas peur.
Alors aujourd'hui, on a Marilène Rufidal, comme tu l'as présenté au début, une personne qui est connue dans le ministère, par exemple parce qu'elle est dans le ministère de chant depuis qu'elle a 13 ans. aujourd'hui, on va parler un petit peu de son album. Elle a un album qu'elle a sorti et un single. Et avant de pouvoir écouter déjà le premier extrait, j'aimerais bien te laisser, Marilène, la parole pour te présenter à la francophonie pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas.
Ok. Alors, déjà, je vais dire que je suis très contente d'être ici. J'apprécie vos émissions et c'est vraiment un honneur, une joie d'être parmi vous. Et déjà, je veux glorifier le nom du Seigneur parce que s'il ne m'avait pas guérie, je serais peut-être pas ici en train de témoigner. Commencer, on va dire que c'est vrai, j'ai commencé à chanter à partir de l'âge de 13 ans
parce que je suis la plus jeune d'une famille de 5. Mm-hmm. Et pour ceux qui connaissent peut-être le trio Rofidal, bientôt, très bientôt, Jésus est la réponse, des chants comme ça. Voilà, je suis la petite sœur, donc je suis d'une autre génération. Ils sont beaucoup plus âgés que moi, mais je suis la petite sœur et ils ont commencé à me prendre lorsque j'avais 13 ans. Alors, j'étais très timide à l'époque. Je chantais sur un refrain. Et sans me douter que c'est ce que Dieu avait préparé pour moi plus tard. Wow. Donc, c'était en fait quelque part une formation déjà pour moi, mais j'étais très timide. Oh là là, j'étais rouge et je n'osais pas trop parler, si je me souviens de ça. Ouais. Je me souviens d'ailleurs d'une tournée au Canada aussi que j'avais faite avec eux. Et soit, alors en fait, je me suis convertie à l'âge de 16 ans, mm-hmm. lorsque j'étais au lycée. Et lorsque je me suis convertie, l'appel de Dieu est venu rapidement. L'appel de Dieu est venu rapidement dans ma vie. Donc après mon bac, je me suis engagée dans des études de théologie au CTS à Bruxelles, qui s'appelle Continental Theological Seminary mm-hmm. à Bruxelles. Là, j'ai fait une licence. Et pendant mes études, j'ai fait déjà mon premier album. Bon, c'est tout un parcours, on en reparlera peut-être plus tard.
7 albums au total. Mm-hmm.
Et donc voilà, donc là j'ai commencé mon premier album lorsque j'étais dans mes études. Mm-hmm. Puis après, donc le Seigneur m'a conduit à plein temps dans le ministère.
Amen. Mm-hmm. Et donc là, vous avez fait 6 albums, et là c'est le 7e dont on va parler aujourd'hui. Mm-hmm. Vous avez
c'est
même
ça.
Fait un album en anglais aussi, vous avez
yes.
tourné avec plein de gens, vous allez chanter devant Billy Graham, vous avez participé à beaucoup, beaucoup de choses.
Oui.
Et on va en parler pendant la rubrique, mais tout d'abord, j'aimerais bien qu'on écoute un single qui s'appelle, votre single qui s'appelle Il est le seul,
Amen.
Qui est chanté avec, il y a même une partie rap qu'on va pas écouter, on a dû le couper à 2 minutes pour pouvoir avoir plus de temps, mais j'aimerais dire vraiment que c'est une chanson très différente de ce qu'on a habitué à écouter, puis on va écouter ça tout de suite.
Mais qu'en est-il de ta vie chaque jour? Tu dis que tes questions n'ont pas de solution. Mais aujourd'hui, où est ta soumission? Il est le seul, tu sais. Il est le seul qui pourra te bénir. Il est le seul, tu sais. Il est le seul qui pourra. Les jours, les nuits, et tu n'as pas compris. C'est une question de choix, bon, mauvais pour toi. Et aujourd'hui, quelle est ta direction? Qui est le seul, tu sais? Qui est le seul qui pourra te bénir? Qui est le seul, tu sais? Qui est le seul qui pourra?
Alors,
ça bouge!
Ça bouge vraiment, c'est.
Il y avait de l'ambiance
très
sur le plateau!
Elle est en feu, Marie-Laure!
Voilà, c'est ce single-là. Et vraiment, avant qu'on écoute, ça c'est un single, et puis après on va écouter votre album,
oui.
sur lequel vous avez. Vous êtes auteur-compositeur, hein, interprète.
Oui.
Mais j'aimerais vraiment vous laisser le temps de parler un petit peu de vos concerts, parce que vous faites des. Vous vous déplacez énormément, et votre ministère, c'est depuis plusieurs années que vous faites des grandes, grandes choses dans le ministère.
Oui. Alors, je veux dire déjà que c'est un cadeau de Dieu et que c'est une grâce de Dieu parce que effectivement, juste après mes études, juste à la sortie de mon premier album, j'ai eu l'occasion de chanter dans des très grosses campagnes d'évangélisation mondiale avec Billy Graham. C'était bien sûr la fin de son ministère, c'était ouais. le début du mien, mais c'était un peu vers la fin de son ministère. Oui, j'ai eu l'occasion de faire des campagnes d'évangélisation avec Luis Palau, Carlos Anacondia, mm-hmm. Maurice Cerullo, des gros festivals internationaux, chanter aux côtés de Toby Mac, des chanteurs comme ça, mm-hmm. en Hollande, des grosses, oui, des festivals internationaux en Hollande, en Allemagne, avec Graham Kendrick, des gens comme ça. Et en fait, je m'adapte à ce que le Seigneur veut de moi.
Mm-hmm.
Donc, j'ai à la fois un ministère d'évangélisation et de louange. Mm-hmm. Le but pour moi, c'est de suivre le Seigneur et d'être son instrument.
Amen.
Donc, en fait, je peux chanter dans des situations complètement différentes. C'est-à-dire qu'une fois, on va me demander de conduire la louange dans des grands rassemblements ou dans mon église ou ailleurs. Ou parfois, ça peut être l'évangélisation pure, c'est-à-dire dans des endroits où il y a pratiquement parfois pas de chrétiens, ou faire des concerts d'évangélisation. Et justement, par rapport à ça, mon album est moitié évangélisation, moitié louange, édification.
Oui.
Parce que j'ai à cœur vraiment les âmes perdues aussi. Je trouve que c'est tellement important de parler de Dieu aussi dans un style actuel, mais avec des paroles convaincantes. Donc au passage, c'est vrai, tu as dit que j'étais auteur, compositeur, interprète. Ça aussi, je veux remercier le Seigneur, parce que lorsque j'ai commencé mes études de théologie, je ne savais pas que Dieu me dirigerait dans le ministère de la musique. Donc je ne savais même pas que je pouvais composer. Donc j'ai commencé à composer lors de mon deuxième album. Et puis là, après, j'ai fait pratiquement moitié des chansons sur le troisième, quatrième, cinquième. Et là, sur le septième, le Seigneur m'a donné la grâce de composer tout l'album.
Et là, on va écouter un extrait justement audio de la chanson « Mon Sauveur ».
Merci.
Un style différent, et tu
quoi,
vois.
Quoi, tu sais, t'adaptes, t'as raison.
Oui. Et l'album
c'est
s'appelle
La Louange, là.
Et ma victoire, il est disponible sur mciboutique.com. Et dans l'album et sur votre site, j'étais allée sur votre site et c'était écrit que ton album, en fait, veut stimuler les personnes à considérer la louange, dans la louange, la faveur et la grandeur de Dieu, et aussi développer aux côtés de l'évangélisation. Et là, tu en as parlé un petit peu. Et là, j'aimerais juste, pour la minute qui nous reste, tu es ma victoire. Quel est le message que tu veux passer, en fait, au travers de cet album et puis du chant un peu qu'on vient d'écouter?
Alors, tu es ma victoire, ça représente tout pour moi. Parce que finalement, quand on revient en arrière sur sa vie, sur tout ce que Dieu a fait depuis notre enfance, on peut réaliser que le fil conducteur qui nous apporte la victoire, c'est Jésus.
Amen.
Et qu'il n'y a que lui qui peut nous apporter la victoire en tout.
Amen.
C'est-à-dire dans la famille, dans les projets, à travers la maladie, c'est lui qui est notre victoire. Et vraiment, je voudrais encourager, ça rejoint un petit peu ce que Omer disait, dans la prière, de s'attendre à Dieu et de réaliser que Dieu n'est pas lointain. Souvent, on pense à Dieu comme, voilà, c'est le Dieu de la création, il est tellement grand, est-ce que je peux l'approcher? Mais c'est non seulement le Dieu de la création, mais c'est mon papa aussi. C'est mon père et c'est mon créateur. C'est pas juste le créateur du monde, mais c'est celui qui a envoyé son fils pour mourir pour moi.
Attention à ton micro, Marie-Hélène.
Oui, excuse-moi. Son fils qui est mort pour moi.
Amen.
Pas juste pour le monde entier, mais pour moi. Et en fait, tu es ma victoire, ça nous aide à aussi réaliser qu'on peut saisir la victoire de Jésus pour notre vie. Amen. Qu'elle n'est pas juste pour le monde entier, mm-hmm. mais qu'elle n'est pas non plus juste pour le voisin, mais mm-hmm. qu'elle est aussi pour moi. Amen. Et que cette victoire, je peux l'appliquer à tous les domaines de ma vie.
Amen, amen, amen.
Et ça, on l'oublie parfois. Mm-hmm. Et rien que de le dire, ça me fait du bien aussi. Mais c'est vrai, c'est important. Dieu. Et c'est dans ce but que j'ai écrit ce chant.
Gloire à Dieu. Donc, voilà. L'album Tu es ma victoire est disponible sur emciboutique.com. Merci encore de ta présence, Marie-Hélène mm-hmm. Rofi.
Merci.
Marie-Hélène, tu as parlé de maladie. Tu es passée par la maladie, oui. mais et tu t'en es très bien sortie grâce à Dieu. Et tu ouais. vas en parler dans la rubrique C'est mon histoire dans quelques semaines.
Yes.
Donc, si vous voulez découvrir son histoire, ben, vous allez être obligés de nous suivre. Merci beaucoup, Marie-Hélène, d'être venue sur le plateau de Bonjour chez vous.
Merci.
Félicitations pour ton album.
Merci.
Et nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera Parle de Jésus à quelqu'un aujourd'hui. On va vous lancer un petit défi dans l'émission de demain. Et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec Thierry Kopp, que vous avez rencontré sur notre plateau il y a quelques semaines. Vous allez découvrir l'histoire extraordinaire de sa conversion. Donc on se retrouve demain. Allez, bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.